voix nue. Toute cette semaine, Sébastien Petitot rencontre Emmanuel Todd. Ce soir, l'âge sombre.
Bonsoir Emmanuel Todd.
Bonsoir.
Je rappelle que vous êtes historien, démographe, anthropologue, et aussi, on l'a entendu dans nos premiers entretiens, un homme de gauche, tant par tradition familiale que par conviction. Nous nous sommes quittés hier alors que pointait le mois de mai 81, ironisant quelque peu sur la fameuse formule de Jack Lang selon laquelle la France venait de passer de l'ombre à la lumière. Quoi qu'il en soit, pour vous, ces années 80 qui débutent semblent plutôt être à l'inverse un passage de la lumière à l'ombre, puisque vous entrez à cette époque, dites-vous, dans le Moyen-Âge. Nous allons évoquer cela, mais avant tout, ce 10 mai 81, pour l'homme de gauche que vous revendiquez être, ça a été un moment de bonheur ?
Honnêtement, non. J'ai voté Mitterrand aux deux tours, si mes souvenirs sont exacts. Mais j'ai jamais aimé les socialistes, en fait. Je suis resté, quoique ayant fait mon premier livre, très anti-soviétique, qui est des trucs, le fou, les prolétaires, mon deuxième bouquin était un truc très anticommuniste. Mais je crois que quelque part, au fond de moi-même, je suis encore plus antisocialiste qu'anticommuniste. Même retourné, un ancien coco ne prendra jamais les sociotraîtres au sérieux. Et il apparaît que j'avais raison. Et qu'on ne nous avait pas menti.
Je n'en sais rien, ce changer la vie qui imprimait la campagne de Mitterrand, les premières semaines d'euphorie qu'il y a pu avoir.
Je n'étais pas là-dedans, puis moi, intellectuellement, j'étais encore vraiment à moitié dans ma tête. Dans des débats intellectuels et historiques anglais. Donc j'étais là sans être là. Et j'avais déjà commencé à regarder la gauche française de l'intérieur et aussi un peu de l'extérieur. Donc j'ai eu le sentiment tout de suite que ça allait mal tourner. Mon père me le rappelle, quelquefois d'ailleurs. Il me rappelle, je ne me souvenais plus que... Enfin, mes remarques très négatives après la victoire de... Mais c'est aussi que je crois d'instinct, je n'aime pas être dans le camp des gagnants. Ça me déplaît. Donc j'ai... Quand je suis dans le camp des gagnants, je crains toujours le pire pour la France.
Quelques semaines avant ce fameux mai 81, vous avez publié avec le démographe Hervé Le Braz un livre qui s'intitule « L'invention de la France ». Qu'avez-vous découvert tous les deux dans cet ouvrage qui vous permettait de comprendre dans ce qui s'est passé, l'arrivée au pouvoir des socialistes, dans les mutations de la société française ? Qu'est-ce que ça racontait, l'invention de la France, à ce moment-là ?
Ça s'appelait Atlas ethnologique et politique. C'était le début du grand retour de la cartographie dans les sciences sociales, en fait. Et donc, on avait pris des cartes de France. Hervé est un virtuose informatique. Il avait mis au point des programmes cartographiques qui n'existaient pas à l'époque. Maintenant. Depuis, ça s'est généralisé. Et puis, on avait logé dans les départements toutes sortes de variables... Certes, des variables démographiques, des variables politiques. On avait aussi des cartes de la sorcellerie à je ne sais quelle époque, des enfants naturels. Enfin, c'était vraiment, on se marrait à comparer la répartition de choses très différentes dans l'espace français. Puis on en tirait des régularités. La dernière partie du livre était sur la politique. Et sur la politique, on avait parfaitement suivi le fait qu'entre la croissance du Parti socialiste, entre 1965 et 1978, en fait, puisque c'est d'avant 81, c'était fait essentiellement au détriment de la droite implantée dans la région catholique. C'est-à-dire qu'on avait commencé à observer le passage à gauche des électorats catholiques, c'est-à-dire de ce qu'étaient les bastions de la droite la plus conservatrice. On avait vu ça. Alors par contre, ce qu'on ne pouvait pas voir, peut-être que ma réaction instinctivement méfiante au départ, peut-être que ancien communiste des zones égalitaires du bassin parisien, j'avais senti d'instinct ce qu'on allait découvrir par la suite, à savoir que c'était pas du tout la gauche qui avait conquis le catholicisme, mais les valeurs latentes du catholicisme qui étaient en train de conquérir la gauche, et donc que ça préfigurait le basculement à droite de toute la gauche française, dont on vient de vivre l'apothéose avec la pulvérisation du Parti socialiste d'ailleurs.
Je voudrais revenir sur la collaboration que vous avez eue avec Hervé Le Braz, puisque ça a été une collaboration qui se poursuit encore, puisqu'il n'y a pas si longtemps, en 2013, vous publiez un autre ouvrage, Le mystère français, avec Hervé Le Braz. Du coup, je comprends pas, parce que hier, Emmanuel Todd, vous nous dressiez un portrait de vous-même, qu'on pourrait qualifier proche de l'ours, vous intéressant un peu à autrui, voire même aux travaux des autres. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Hervé Le Braz qui met à mal ce profil de solitaire que vous évoquiez hier?
Non, mais en fait, vous notez une contradiction plus générale, en fait, parce que j'ai collaboré quand même avec des gens.
Oui.
J'ai fait deux bouquins avec Le Braz. C'est pas finalement forcément ma collaboration la plus importante, mais c'était la plus durable, même si pendant un quart de siècle, entre les deux livres, on ne s'est pas parlé, hein, quand même. On est en France, donc on se fâche. Bon. Mais j'ai également le livre que j'ai fini par sortir sur l'origine des systèmes familiaux. Je l'ai fait à partir d'une idée que m'avait donnée mon ami Laurent Sagar, qui est linguiste et spécialiste de la généalogie des langues asiatiques. Enfin, il est parti de la Chine et qui, le premier, m'a permis de comprendre la distribution dans l'espace des types familiaux. Et avant de faire ce gros livre, on avait fait ensemble un article, tous les deux, pour la revue Diogène. Et puis j'ai fait aussi un livre avec Youssef Courbage, sur, qui est l'un des meilleurs spécialistes mondiaux de la démographie du monde musulman. Donc en fait, j'ai l'impression d'écouter les gens, et quand j'entends les gens dire des trucs inhabituels, très intéressants, qui ont un rapport avec mes recherches, oui, donc je suis juste en train de dire le contraire de ce que je disais avant, mais bon, c'est comme ça, hein. Alors Le Braz, on est très différents, on est très complémentaires en termes de recherche. C'est quand même grâce à lui que je suis entré à l'INED. Hein. Faut dire que socialement, c'est lui qui m'a sauvé et qui m'a permis de faire la recherche. Donc,
l'INED, rappelons-le, c'est l'Institut national
d'études démographiques. Donc, je viens de quitter puisque j'ai pris ma retraite en mai dernier. Le Braz, il est démographe, vraiment, contrairement à moi. Il est polytechnicien, c'est un excellent mathématicien. En plus, mais c'est aussi un type très cultivé qui a beaucoup lu. Et on a commencé à travailler parce qu'on avait découvert, je crois, un jour, en discutant à la bibliothèque de l'INED, à l'époque où je dis travaillais pas du tout, hein, un intérêt commun pour la distribution dans l'espace de ces variables statistiques. Je crois que c'est tout. Mais en fait, on a été mis en contact par Peter Laslett, mon directeur de Cambridge, de thèse de Cambridge. C'est-à-dire que, en fait, Le Braz, je le connais parce que Laslett m'avait demandé de faire l'interprète entre Le Braz, dont il avait beaucoup apprécié un article sur problèmes de généalogie statistique, et puis Ken Warter, qui était un informaticien de Cambridge, aussi un copain d'ailleurs, qui maintenant habite en Californie. Et alors c'était comme toujours, hein, vous mettez en face à face deux informaticiens. Quoi sert un traducteur? Je veux dire, ils ont parlé informatique, j'ai rien compris, j'ai servi à rien, mais ça m'a mis en contact avec Le Braz. Et après, on a été fâchés pendant un long moment, et en fait, dans mon souvenir, mais il faudrait qu'il confirme, on était tombés l'un sur l'autre, et on avait pris un pot, et je me souviens qu'on s'était avoué que Laslett, qui était mort, nous manquait. Voilà, donc c'est le lien, on retrouve l'Angleterre. Mais c'est vrai que quand on travaille ensemble, on est extraordinairement efficace. Et donc il y a un truc de, comme ils disent dans les entreprises, de synergie intellectuelle. Et on voit des trucs dans l'espace. Et en plus, on se marre.
On arrive en 83, année où vous publiez un ouvrage fondamental dans votre carrière qui s'intitule « La troisième planète ». La troisième planète, c'est la troisième planète du système solaire, c'est la Terre. Fondamental parce que...
Ça, c'est la trace de mes lectures de science-fiction. Personne n'avait compris le titre. Heureusement qu'il y avait un sous-titre. Parce que un lecteur de science-fiction sait que la troisième planète, c'est la Terre. Mais la plupart des gens, en fait, s'en foutent.
Je dis à Emmanuel Todd que c'est un ouvrage fondamental parce que c'est la première fois que vous allez y exposer ce qui va devenir votre thèse majeure, à savoir que l'on peut expliquer la répartition des idéologies, des systèmes politiques sur la planète par la diversité des structures familiales. Comment vous arrivez à cette conclusion à l'époque?
En fait, je pense que fondamentalement j'ai été influencé, c'était dans la logique de ce qui se passait à Cambridge. C'est-à-dire, moi je crois beaucoup aux chercheurs solitaires et à l'individu cherchant à résoudre tout seul des problèmes intellectuels. Je viens de dire que je pense qu'on peut collaborer sur des choses. Mais en fait, les évolutions scientifiques, oui, on peut parler de science à propos de ces choses, de l'histoire. C'est des phénomènes d'école. Et moi, quand j'étais à Cambridge, on travaillait sur structure familiale. Laslett avait découvert que la famille anglaise du XVIIe siècle était déjà nucléaire, c'est-à-dire individualiste, très simple. Alan Macfarlane, qui lui avait été mon examinateur de thèse à Cambridge, Internal Examiner. Il y en avait un autre de l'extérieur. Il a publié un livre dont j'ai fait un compte-rendu pour Le Monde, d'ailleurs, sur les origines de l'individualisme anglais, qui mettait en rapport le tempérament politique et social individualiste des Anglais et la structure familiale. C'est pratiquement la même thèse, en fait. Et moi, j'arrivais là-dessus. Et donc, un jour, j'étais là, allongé sur un canapé, et j'ai vu dans ma tête se superposer la carte de ce que j'appelle maintenant structure familiale communautaire. Ce qu'il faut imaginer, c'est le père et ses fils mariés, une sorte de truc
c'est,
un peu...
Si je ne veux absolument pas résumer à trop gros traits, mais quand même, c'est la relation entre parents-enfants, entre frères, entre mari et femme. Enfin, c'est ces relations dans la famille qui déterminent notre rapport à la liberté, à l'autorité.
Oui, c'est ça. Ça, c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé. Mais réellement, moi, je suis vraiment un empiriste. Hein, et je suis pas sur des concepts lourds.
Vous me parlez d'une forme de eureka, j'ai trouvé.
Non, allongé. J'ai juste vu se superposer dans ma tête la carte d'un type familial et du communisme. J'ai vu que la Russie, la Chine, la Serbie, un bout de la Croatie, le Vietnam, particulièrement le Vietnam Nord. L'Italie centrale, où il y avait un gros vote communiste, un bout de la Finlande, la partie nord-ouest du Massif central, en partie, avait un certain type de structure familiale, et tout ça, c'était des régions de succès endogène du communisme. Donc c'était complètement empirique. Alors, ensuite, c'est assez facile d'expliquer pourquoi. Ce qui est dur, c'est de voir le truc, je pense. Et donc, la famille communautaire, c'est une famille qui est autoritaire. C'est une famille qui est égalitaire, puisque les frères sont égaux dedans, l'héritage est parti de façon égalitaire. Donc les valeurs fondamentales de ce type familial, c'est autorité, égalité. Et donc il est tout à fait facile d'imaginer que quand cette famille traditionnelle se désintègre, les valeurs d'autorité et d'égalité sont mises en liberté dans la société, que les individus sont un peu perdus et qu'ils vont aller chercher des substituts à la famille traditionnelle, et les substituts, ça va être le Parti communiste, l'économie centralisée. Je sais toujours ce qui est le plus près de la famille, dans un contexte russe, c'était quand même le KGB, qui s'occupait personnellement des intérêts psychologiques des individus qui géraient. Voilà. Donc, c'est ça. Alors, ce que je fais, j'ai généralisé, c'est-à-dire je me suis pas arrêté là. J'ai fait une typologie des types familiaux. J'ai aussi bien distingué la famille souche. C'est des systèmes autoritaires, mais où un seul des enfants est héritier, comme en Allemagne, au Japon ou dans le sud-ouest de la France. J'ai le type anglais, je le connaissais. Le type de la France du Nord, c'était individualiste égalitaire. J'ai vu à l'époque le système familial des pays arabes et d'Iran, formellement avait l'air d'être de type russo-chinois, mais était transformé par une pratique du mariage entre cousins. Le type familial de l'Inde du Sud est aussi très spécifique. Donc j'avais, je crois, 7 types familiaux. À l'époque, j'étais nul sur l'Afrique, donc j'avais dit, ouais, polygamie partout, je traite rapidement. Maintenant, je serais très fort sur l'Afrique, mais à l'époque, j'étais pas. Et donc, voilà, et pour moi, c'est une sorte de cas. Et j'ai écrit très vite un livre sur le sujet, parce que comme à l'époque, les recherches sur la famille se développait très rapidement. Moi, j'ai passé pour vérifier l'hypothèse entre 6 mois et 1 an à la bibliothèque du Musée de l'Homme, bibliothèque qui a été transférée au Quai Branly. Moi, j'ai une éthique où je me pense chercheur et scientifique. Et donc, j'avais peur d'être juste doublé, puisque c'était évident pour moi que c'était vrai. Sur le nombre de coïncidences, sur la coïncidence type familial, idéologie politique, était tellement évidente. J'ai même pas fait de test statistique parce que ils auraient presque été ridicules tellement ils auraient été significatifs et tellement ça collait bien. Et donc j'avais peur d'être doublé, je suis allé très vite. Et puis en plus, j'avais le défaut 68 ans de raconter des conneries en passant dans mon texte. Et c'est là que mes ennuis ont commencé.
Alors, avant les ennuis, il y a des gens qui sont laudateurs. Je pense notamment à l'historien Pierre Chenu.
Ouais.
À l'époque, il dit « Emmanuel Todd va troubler pour longtemps le cours des sciences humaines ». Après une telle œuvre, La Troisième Planète donc, plus rien ne sera jamais identique. Ce livre est une bombe.
Il était très sympa, Chenu, j'étais super content. Surtout que moi, je suis de cette école-là. Le Roi l'a du riche, Chenu, c'est les deux que je cite le plus spontanément. Mais à l'époque, Chenu avait la réputation quand même, totalement méritée, d'être d'un grand idéologue réactionnaire. Donc à partir du moment, si vous êtes encensé par Chenu dans le Figaro, par exemple, hein, qu'est-ce qui vous arrive dans Libé ensuite? Vous faites massacrer par un type qui ne sait pas de quoi il parle.
Cette bombe, alors, elle a été perçue comment, justement? Par vos confrères historiens, anthropologues, politologues, par les médias? Rappelez-nous le contexte.
Alors, les journalistes qui écrivent n'importe quoi, souvent sur commande, parce que je m'étais fait beaucoup d'ennemis en tant que critique au Monde des Livres, parce que j'étais très honnête et j'avais passé quand même plusieurs années à insulter tout le monde du haut de cette institution. Mais bon, les journalistes qui sont pas au courant, qui racontent n'importe quoi, c'est pas trop choquant. Mais ce qui m'a vraiment cueilli à froid, c'est pas les critiques, parce qu'il n'y a pas eu de critique. C'est une situation de type médiéval, clérical, où on me dit, mais vous n'avez pas le droit de regarder dans le télescope. Je refuse même d'observer ces planètes que vous me montrez et qui sont à tel endroit et dont la place à tel endroit suggère que ça n'est pas le soleil qui tourne autour de la Terre, mais la Terre qui tourne autour du soleil. Non, vous n'avez pas le droit, c'est dans l'Inquisition, quoi. Et là, ce qui m'a le plus choqué, c'est que moi, j'avais des tonnes de données. Je suis spécialiste des structures familiales, quand même. C'était mon métier, ça l'est toujours. Et les idéologies politiques, leur distribution dans l'espace, on les connaît. Et donc, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est la façon dont la cléricature, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, la cléricature de la recherche, du CNRS, de l'université, a refusé de regarder les données. C'est ça qui était très impressionnant. Et donc, personne ne m'a jamais dit « Monsieur Todd, votre description du système familial du nord-ouest du Massif central est inexacte. Monsieur Todd, votre description du système familial thaï du nord-est est une aberration. Vous racontez n'importe quoi sur le système familial chinois. » Personne ne l'a fait. Je connais qu'un mec qui m'est dézingué sur certains systèmes familiaux mal identifiés. Je connais très bien ce mec, d'ailleurs, parce que c'est moi. C'est d'ailleurs, j'ai dû, dans les années qui suivent, faire la correction de détails. Souvent, d'ailleurs, ça m'arrangeait, ça améliorait la coïncidence, le plus souvent. Mais c'est vraiment impressionnant de voir des gens qui sont payés pour faire de la recherche, qui sont en théorie payés pour chercher la vérité, et qui simplement refusent de regarder une hypothèse et refusent de regarder des faits. C'est ça que j'appelle aller dans le Moyen-Âge.
C'est le fait que vous soyez un diplômé de Cambridge, c'est de la jalousie.
Non, ça c'était des... Ah oui, ça, l'explication. Oui, je me souviens, il y avait cette émission, c'était Droit de réponse, l'émission...
De Michel Pollack.
De Pollack. Godelier avait exigé d'y aller pour venir m'insulter. Et dedans, il m'avait dit de retourner à Cambridge, effectivement. Mais lui, je lui avais fait des farces dans le Monde des Livres, hein, quand même. À propos, je m'étais moqué de son livre sur les barouillas, donc on était dans le règlement de compte interpersonnel. C'est Paris, quand même. Mais je crois pas, je pense pas qu'on puisse tomber au niveau d'une interprétation par des histoires de querelles personnelles, de ressentiments. Ce qui semblait autoriser les gens, de leur point de vue, à ne pas regarder, c'est que mon hypothèse était une insulte à la liberté humaine. Comme je disais, les gens sont déterminés, pas totalement, mais assez largement, dans leur choix idéologique, par des structures familiales, anthropologiques profondes, dont ils ne sont pas conscients. Alors, c'est tout à fait extraordinaire. Donc on n'avait pas le droit de dire ça. Mais en fait, c'est supérieurement idiot, quand on y pense. C'est-à-dire, si être libre ou défendre la liberté, c'est interdire aux gens d'essayer d'aller trouver des vérités scientifiques qui pourraient libérer d'ailleurs, comme la psychanalyse est censée libérer de son inconscient dans une certaine mesure, si elle peut. Et c'est ça qui sortait le plus. Alors c'était l'ambiance d'après 68, on était libre. Et d'ailleurs, cette hostilité était vraiment forte. Parce que j'ai pas été vraiment très bien reçu dans le monde anglo-américain. Hein. Lazlett m'a été très gentil, on est resté en bon terme. Bon, ils m'ont traduit mon livre hein, quand même à Cambridge, mais les gens ne m'ont pas suivi. Hein. McFarlane ne m'a pas soutenu, donc c'est pas...
Il n'y a pas un particularisme français dans ce refus ?
Non, pas du tout. Mais mes premières emmerdes, en fait, intellectuellement, c'était antérieur à ça. Le premier anthropologue qui m'ait fait suer, ça, c'était un très grand, c'était Edmund Leach, qui avait été l'un des rapporteurs de ma thèse en cours de rédaction à Cambridge, et qui m'avait dézingué, j'avais demandé un poste, on m'a pas pris en grande partie à cause de lui, qui m'avait dézingué, on n'a pas osé même me montrer son rapport, Alors qu'à l'époque, c'était une sorte de sommité, c'était le rival de Lévi-Strauss en Angleterre. Hein. Il aurait été encore plus énervé s'il avait su à l'époque que Lévi-Strauss était un cousin. Mais bon, et il aurait fait attention peut-être. Puis il était aussi provost, c'est-à-dire le président, le chef de King's College, qui était. Je me souviens, j'avais été le voir pour lui demander ce qui allait pas dans mon travail. Il m'avait reçu, mais traité avec un mépris. Le seul truc dont je me souviens, c'est que de rage ce jour-là, mon anglais est devenu correct. Ce matin-là. Voilà. Mais donc l'idée que les emmerdes intellectuelles, on les a juste en France, que le monde anglo-américain est une terre de liberté absolue, c'est pipeau, ça. C'est les sociétés individualistes, ces deux types, arrivent tout à fait à sécréter des mécanismes de rejet mimétique.
Est-ce que toujours dans cette recherche d'explications possibles, est-ce qu'il y aurait, j'en sais rien, même chez les chercheurs, chez les intellectuels, qu'ils soient français, anglo-saxons, peu importe, un tabou à l'égard de l'étude de la famille? Est-ce que c'est le concept
de France, en France, c'était ça. Donc, la famille insulte à la liberté. Chaunu dit que le livre est formidable. Travail, famille, patrie. Todd est un vichiste qui peut-être même ne s'ignore pas. C'est probablement j'étais sauvé parce que j'étais d'origine juive, britannique, communiste, avec une excellente composition de classe selon les critères maoïstes. Hein, vraiment, mais sans ça, j'aurais eu la moindre parcelle de vrai catholicisme dans ma généalogie. J'étais mort pour de bon. Hein. Ça a vraiment été, c'est le gros choc intellectuel et psychologique, parce que ma mère m'avait élevé avec l'idée que quand on travaillait dur, quand on se comportait bien moralement, on était récompensé. Et donc je me disais, putain, j'ai trouvé un truc génial, je suis le Newton des sciences sociales, Pasteur peut-être, je vais être récompensé. Oh là là, oh, la déception, c'était au-delà. C'est un vrai test de caractère. Je crois que c'est la thèse elle-même qui était inacceptable par la société. Et d'ailleurs, la thèse, l'idée que les individus sont déterminés par des structures familiales, qui d'ailleurs paradoxalement sont des structures familiales individualistes, c'est la thèse appliquée en France ou en Angleterre, la thèse disait qu'on avait des cultures libérales déterminées par la famille. Et donc que notre idée même de liberté n'était pas de la vraie liberté. Donc c'était totalement, d'un point de vue de philosophie politique libérale et d'idéologie standard franco-anglaise, c'était juste pervers comme truc, puisque notre liberté n'était au fond pas une vraie liberté. C'est-à-dire qu'on se pratique merveilleuse. La liberté anglo-saxonne, c'est trop génial. La liberté française, quand elle existe, c'est trop génial. Mais voilà. Et par contre, et alors là, le paradoxe ultime pour moi, c'est que l'invention de l'Europe... Cette espèce de pavé, je me suis obstiné ensuite. Donc, quand je parlais de test de caractère, je me dis, ah, c'est ça, je vais leur monter. Et j'ai perdu des décennies à faire des livres, perdu, c'est peut-être pas le mot, pour développer, démontrer l'hypothèse. L'invention de l'Europe, j'avais passé 6 ou 7 ans dessus. Ça a été traduit en japonais par M. Ishizaki et par les éditions Fujiwara. Et alors là, c'était la grosse surprise parce que, la culture japonaise, c'est une culture autoritaire et hiérarchique. C'est la famille souche, comme en Allemagne. Sauf que les Japonais, ils ont le droit d'être ce qu'ils sont. Les Allemands, ils doivent dire qu'ils sont occidentaux comme tout le monde. Il ne s'est rien passé là-bas, c'est comme ici. Mais les Japonais, non. Les Japonais pensent qu'ils sont Japonais, ils sont très contents comme ça. Et donc, ils voient arriver un occidental, un petit brun en plus, qui arrive en disant « les choses les plus importantes dans la vie sociale sont déterminées par les structures familiales ». C'est quasiment la vision officielle du Japon par lui-même. Donc, en fait, là-bas, j'étais reçu comme, tiens, enfin un occidental normal. Et donc, tous mes livres, par la suite, ont été traduits en japonais. Et au Japon, je suis le contraire de ce que je suis ici.
Oui, vous avez une formule, vous êtes la Mireille Mathieu des sciences humaines.
Alors, je considère que j'ai atteint le stade Alain Delon.
Le Alain Delon des sciences humaines.
Oui, oui. Non, mais bon. Mais... C'est très drôle parce que en France, je ne sais plus très bien où j'en suis maintenant, mais j'imagine que j'ai plutôt une image de rebelle destroy sur le retour avec l'âge. La notion de rebelle retraité devrait être indéfinie avec une allitération. Mais au Japon, je suis considéré comme un type complètement raisonnable, serein, équilibré. C'est super drôle. Et ce qui est super drôle, c'est que c'est la culture japonaise qui est hiérarchique, autoritaire, et c'est là-bas que je peux me mouvoir librement, intellectuellement. Ce qui prouve que ma thèse est vraie, d'ailleurs.
On vient de parler donc de cette période difficile, j'allais dire, sur le plan intellectuel, mais je crois que ça se double aussi d'une période douloureuse dans votre vie personnelle. Manuel Todd, en 86,
Oui, j'ai eu, genre, on parle et puis subconscient réfléchit, et je me rends compte que les années 83-86 ont été une sorte de moment, un point nodal, quoi. On se rend pas bien compte dans l'instant dont mon existence a basculé. D'abord, j'ai eu cette idée de recherche. Je l'ai eu en fait entre 81 et 83 parce qu'elle est déjà présentée d'une façon très embryonnaire et mal foutue dans l'introduction de l'invention de la France que j'ai fait avec Le Braz et que c'est la partie du livre que l'une des parties du livre que j'ai écrite. Hein. Et puis donc 83, je pense que La Troisième Planète est sortie en 83. Donc ça a engagé toute ma vie de chercheur et puis donc j'ai quitté Le Monde où j'étais grâce à Hervé, je suis entré comme directeur de la bibliothèque de l'INED où je me suis épanoui en élevant le rapport sur l'achat de rayonnage mobile pour la cave. J'ai fait quelque chose de tellement beau que le directeur adjoint de l'INED qui me protégeait m'a dit « on va envoyer votre tableau synoptique mais pas votre texte hein, au contrôle financier ». Et puis ma mère est morte, j'avais 35 ans, et donc après, la notion d'agression intellectuelle ou d'injustice du milieu devant ce que je considère comme une découverte, très rapidement s'est empilée là-dessus la notion de la découverte de l'injustice de la vie. Parce que il y a des choses, j'avais tout à fait imaginé dans ma vie de ne pas avoir des postes, imagination d'ailleurs totalement réalisée, d'avoir tel ou tel type de truc, mais j'aurais jamais imaginé perdre ma mère aussitôt, quoi. Et donc ensuite, je me suis enfermé dans le travail de recherche sur l'invention de l'euro qui m'a pris 6 ou 7 ans et qui, je pense, d'une certaine manière, ça a été ma façon de réagir à la fois à la disparition de ma mère et aux agressions externes. Et j'étais allé très loin dans le détail. C'est-à-dire que c'est un livre où il y a beaucoup de cartes, mais ça se fait plus maintenant. Mais j'avais appris à faire moi-même des cartes au propre, avec des trames, avec des cutters, alors que je suis extrêmement maladroit. Et les cartes les plus complexes qui sont dans le livre, tel qu'il est toujours dans l'édition de poche, c'est des cartes que j'ai fait moi-même au propre jusqu'au bout, dans une sorte de retrait ascétique. Et puis j'en suis sorti avec 2 enfants de plus et on fait quelques erreurs. Bon, voilà. Pas les enfants qui sont toujours voulus.
Justement, durant ces années difficiles qu'on vient d'évoquer, vous publiez, vous venez de le dire, l'invention de l'Europe en 1990, le destin des immigrés en 94, des centaines et des centaines de pages. Vous appliquez notamment votre thèse sur les structures familiales. Mais c'est une simple note, je dis simple avec les guillemets qui conviennent, mais c'est une simple note qui va vous réintroduire dans le concert, j'allais dire, politico-médiatique. Une note de 39 pages, rédigée pour la Fondation Saint-Simon, et intitulée « Aux origines du malaise politique français », et qui sera à l'origine d'un grand malentendu, puisque ça va faire de vous le père de la fameuse fracture sociale, et vous faire considérer comme l'un des contributeurs à l'élection de Jacques Chirac comme président de la République. Mais de tout cela, nous parlerons demain. Merci beaucoup, Emmanuel Todd.
Oui, je sens qu'on va s'amuser.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Sébastien Petitot avec Emmanuel Todd. À voix nue, prise de son, Éric Audra. Réalisation, Vincent Abouchard. Coordination, Sandrine Trainer. Attachée de production, Claire Poinsignon. Cette émission s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.